France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, 95, l'esprit de décembre. Épisode 5, circonscrire le feu. Parfois, la manif s'apparente à un carnaval. Elle en reprend les couleurs, les chants, quelquefois jusqu'au déguisement. En 1995, on trouve dans les cortèges les banderoles roses des féministes, les triangles également roses d'ACT UP, les drapeaux verts des écologistes ou les grandes mains jaunes de « Touche pas à mon pote ». Pour souligner leur appartenance à leur métier, des cheminots, des électriciens ou des gaziers défilent avec leur tenue de travail. Et puis, comme dans tout carnaval digne de ce nom, il y a les fumigènes.
Parmi les caractéristiques du mouvement social sur lesquelles il faudrait évidemment s'appesantir dans les analyses ultérieures, c'est tout à fait important de comprendre quel était l'imaginaire de ce mouvement social ou les productions symboliques qui ont été les siennes. À titre d'exemple, je suis frappé par l'importance qu'ont revêtu dans les manifestations les fumigènes et les fûts sur lesquels qui servaient de grosses caisses. Tout se passait comme si ce mouvement, qui était dénué de tout caractère violent, pour l'essentiel, et quand il n'avait pas affaire aux provocations de la police, exprimait par là quelque chose comme l'explosif, et comme si il ne symbolisait pas une violence retenue et une colère, elle par contre, parfaitement ouverte.
Entre la fête et la révolution, entre l'explosion de joie et l'explosion sociale, c'est là que se situent les manifs de 1995.
'95, l'esprit de décembre, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Xavier Joly, attaché de production, Lily Cornaer.
Si la manif est un carnaval, la grève, elle, est un théâtre. Il y a le spectacle qui se déroule sur scène, auquel chacun peut assister, et puis il y a les coulisses. Quand ils ressortent des coulisses, les acteurs principaux de la pièce, que sont le personnel politique et les dirigeants syndicaux, doivent trouver les mots pour se faire applaudir. Entre les discussions privées et les prises de parole publiques, entre les slogans des cortèges et les réunions à Matignon, les syndicats ont cherché un compromis entre la rue et le gouvernement. Avec bien sûr des erreurs, de part et d'autre. Archives à voix nue, Alain Juppé, le 3 janvier 2024.
Alors l'autre erreur, mais que j'ai confessée aussi, malgré le succès du plan, c'est que j'ai fait une phrase sur les régimes spéciaux de retraite, en disant « il va falloir un jour ouvrir ce dossier ». Mais je n'avais aucun projet de réforme. Et quand j'avais consulté, avant de prononcer mon discours, Nicole Notat, qui soutenait ma réforme de l'assurance maladie, et Bergeron, qui venait de quitter le secrétariat général de Force ouvrière, il m'avait dit « Votre plan assurance maladie, allez-y, on vous soutient, mais ne parlez pas des régimes spéciaux de retraite, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas de projet à proposer, et vous allez mettre le feu aux poudres. » Dans mon ardeur réformatrice, je ne les ai pas écoutés, et c'est ça qui a provoqué, effectivement, les grandes grèves de décembre 1995.
Nicole Notat, vous êtes syndicaliste et ancienne chef d'entreprise. Vous étiez à la tête du syndicat CFDT au moment du mouvement de novembre-décembre 1995. Que vous inspire ce que dit Alain Juppé dans cet archive qu'on vient d'écouter ?
Ben, il a effectivement raison. C'est-à-dire qu'on avait travaillé, enfin, y compris des secrétaires nationaux à la CFDT à l'époque, responsables de la sécurité sociale, avaient eu des contacts pour effectivement essayer de comprendre ce que Alain Juppé prévoyait comme réforme. Nous-mêmes, nous avions des propositions de réforme, car nous étions très inquiets. C'était un moment où il y avait un gros déficit, comme aujourd'hui, mais enfin, de l'assurance maladie. Et nous savions que le déficit, si on ne réussissait pas et à le combler et à le maîtriser, c'était les retraités qui, enfin, les gens qui n'ont pas les retraités, sont assurés par la maladie, qui risquaient d'avoir des résultats délicats. Donc, on était tout à fait d'accord là-dessus. On avait proposé aussi qu'il fallait qu'on s'engage clairement vers la couverture universelle, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir bénéficier d'une couverture maladie, quelle que soit sa situation en France, et puis faire en sorte que la CSG soit vraiment sur tous les revenus, Voilà, donc on avait travaillé tout ça et Juppé nous a proposé en plus de créer ce qu'on a appelé la CADES, qui était un moyen de mettre pour la dette et de le rembourser en créant la CRDS sur laquelle on continue d'ailleurs à financer.
Donc des prélèvements, donc, des prélèvements supplémentaires et vous vous
uniquement pour résorber
avec
la dette.
Le gouvernement
donc tout ça, on
là-dessus.
S'est dit, c'est à la hauteur du problème. Donc ok, on est d'accord et notre bureau national avait considéré que même si on n'était pas d'accord à 100%, on avait au moins 80% et que donc ça valait le coup qu'on dise, ben ok, c'est une réforme qu'on veut, donc on va la soutenir. Et je suis moi-même allée à l'Assemblée nationale parce que tout ça s'est passé à l'Assemblée nationale où Alain Juppé venait présenter sa réforme et où je l'écoute, fidèle à ce dont on avait connaissance sur l'assurance maladie, et je l'entends annoncer qu'il veut créer une commission pour réfléchir, comme il le dit, à l'avenir des régimes spéciaux.
Ce dont il ne vous avait pas parlé.
Ce dont on n'était pas, au contraire, enfin non, bien sûr. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, vraiment, là, ça y est, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, on va avoir des réactions de la SNCF, de la RATP, enfin, ceux qui sont très attachés à leurs régimes spéciaux, qui n'avaient pas envie d'en changer. Ça n'a pas loupé, comme je dis. Effectivement, c'est le début du mouvement. Ces entreprises-là lancent la grève, ils la lancent en ayant des résultats incontestables. Et puis, ce qui a étonné beaucoup, c'est que les manifestations débordaient largement des salariés des entreprises concernées. Et effectivement, on a parlé de grève par procuration, mais sur des thèmes qui n'étaient pas du tout liés à ces régimes spéciaux.
Donc vous pensez que le mouvement de novembre-décembre 1995 tient à une phrase prononcée par Alain Juppé, et que si cette phrase n'avait pas été prononcée, il n'y aurait pas eu ce mouvement ?
Enfin, en tout cas, il n'y aurait pas eu les grèves qu'on a connues au niveau là où il y avait les régimes spéciaux, ça c'est sûr, c'est sûr.
Et quand vous voyez monter donc, la contestation en France, un peu progressivement comme ça, qu'est-ce que vous vous dites ?
Je me dis que tel que nous voyons le mouvement qui se développe vraiment, qu'on est dans quelque chose qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et que le thème des régimes spéciaux est, je dirais, le thème qui a mis le feu aux poudres, comme on dit, et que c'est quand même prioritairement là qu'il faudrait baisser la température.
Le 24 novembre, la grève totale et reconductible est votée à la SNCF. Le lendemain, une grande journée d'action nationale réunit la plupart des syndicats, dont la CFDT. Mais la manifestation ne se passe pas comme prévu pour sa dirigeante. Archive de l'édition du 19-20 de France 3.
Dans la voiture, Nicole Notta doit quitter le défilé sous les huées de ses opposants. Ils lui reprochent des positions trop favorables au plan Juppé.
À la CFDT, nous avons, concernant l'assurance maladie, des revendications qui ont été satisfaites à 85%. Donc nous n'avons pas l'habitude de dire non à un plan qui reprend 85% de nos revendications.
Très vite à son arrivée ce matin, des sifflets ont commencé à se faire entendre. Entourée de son service d'ordre, Nicole Notta décide alors de quitter discrètement le cortège. Mais un groupe d'une centaine de militants de la CFDT, cheminots et enseignants confondus, la poursuit jusqu'à sa voiture dans un climat de plus en plus violent. C'est avec soulagement que la secrétaire générale s'est réfugiée dans sa voiture, mais la tension reste vive. Et à la CFDT, la contestation n'est pas terminée. Les opposants ont bien l'intention de se faire entendre. Les cheminots, par exemple, ont décidé de poursuivre le mouvement dans l'unité syndicale la plus totale.
Nicole Notta, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment vous avez vécu cette journée de votre point de vue? Que s'est-il passé quand on était, comme vous, la personne qui était chahutée par les manifestants?
Oui, vous voyez bien que là, on est dans une manifestation par rapport au sujet des régimes spéciaux, puisque là-dessus, on ne pouvait pas soutenir. Et donc, on est en manifestation sur ce sujet, mais bien sûr, c'est le plan Juppé dans son ensemble qui est entendu, retenu par beaucoup de manifestants qui, eux, ne partageaient pas le plan Juppé. Alors, ce qu'on a entendu là, c'est rien. J'ai entendu pire. J'ai entendu dans les manifestations en question, Juppé au placard, Nota au plumard. C'était vraiment très, très gentil. Et donc j'ai pu apprécier à ce moment-là ce que ça voulait dire d'être une femme publique et d'être en responsabilité et donc par des gens qui étaient en désaccord avec la position qu'avait la CFDT, ce qui était leur droit le plus strict. Mais voilà, les conditions dans lesquelles cela s'exprimait, la violence des propos, il y a même eu pire, hein, il y a eu un secrétaire général d'une autre organisation qui a commencé un interview un jour en disant « Moi, je ne couche pas avec les premiers ministres ». J'ai dit que moi non plus. Donc, vous voyez, c'était quand même... Donc, cette manif-là qu'on vient d'entendre, elle est violente parce qu'on demande ma démission. Mais je dirais, ça, c'est pas du sexisme. Mmh. Donc, ça peut s'entendre dans des, vis-à-vis de gens qui sont en désaccord et qui veulent l'exprimer. Mais je n'ai jamais, je dois vous dire, que j'ai vécu ça, non pas avec plaisir et non pas avec envie que ça se renouvelle tous les jours. Mais en tout cas, en le dépassant fortement. Je savais que... Il y avait des désaccords de fond sur les revendications et sur les résultats. Bon, c'est tout, il fallait se dire que c'était un moment à passer. Mais quand même, ce que je retiens, c'est le sexisme dans la manière de s'exprimer.
Le 26 novembre, Nicole Nota est invitée sur le plateau de France 2, interrogée par Daniel Bilalian.
Pour ce qui concerne la sécurité sociale, vous pensez que c'est terminé, la réforme va passer, le gouvernement peut tenir sur cette position ?
Ah mais non seulement je pense qu'elle peut, je dis qu'elle doit passer concernant l'assurance maladie. Et nous ne serons pas du côté de la CFDT, de ceux qui veulent la faire échouer, mais nous avons le gouvernement à l'œil. La vigilance s'impose, car maintenant il faut appliquer les orientations, et c'est là que le gouvernement va être au pied du mur contre tous les lobbies.
Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de cet entretien avec Daniel Bilalian et de ce qu'il a pu constituer dans l'histoire, votre histoire du mouvement novembre-décembre 95?
Oui, ben là, enfin, je vois bien. Et voilà, moi, quand je dis qu'on a le gouvernement à l'œil, on a même été jusqu'à une fois que les choses ont été calmées, on a même été jusqu'à créer ce qu'on a appelé un comité de vigilance. Avec des organisations comme la Mutualité, des organisations associatives, etc., qui étaient, elles aussi, en accord avec le besoin de faire cette réforme.
Est-ce que vous avez l'impression de jouer gros quand vous allez sur le plateau de France 2 ce soir-là ?
Ce qui remue, si vous voulez, les militants, y compris des militants qui ne sont pas dans la ligne d'opposition, c'est que quand on prend une position comme ça, on est isolé. Moi, je disais, on n'est pas isolé, on se distingue. C'est une manière de faire savoir qu'il y a plusieurs types de syndicalisme qui peuvent être proposés et que notre volonté à nous, notre doctrine, c'est d'avoir des types, des formes de syndicalisme qui apportent des résultats aux problèmes qui se posent et des résultats aux gens qui vont être concernés par les réformes. Donc ça, c'est vraiment notre ligne de conduite, on l'explique. Mais une fois que ces militants comprennent qu'on est dans une situation où on est contesté de l'extérieur... Bien sûr qu'autour d'eux, sur le terrain, les militants CGT, les militants Force ouvrière vont venir les titiller. Et par conséquent, ils ont une répercussion eux-mêmes sur leur vie au quotidien, des positions confédérales, et certains nous disent parfois, bon écoutez, allez-y mollo, parce qu'on a, nous, les conséquences. Mais en même temps, ça a été un moment où énormément de militants ont expliqué très très sereinement et très franchement nos positions et les raisons pour lesquelles on les avait.
Donc, on est là à la fin du mois de novembre à peu près. C'est difficile de faire la chronologie, évidemment, jour par jour. Mais est-ce que vous avez encore, à ce moment-là, des contacts avec le gouvernement? Est-ce qu'il y a des négociations avec Alain Juppé? Est-ce que vous l'avez au téléphone? Est-ce que vous allez à Matignon? Est-ce que vous parlez, là encore, de nouveau, ou pas, à d'autres organisations syndicales? Comment ça se passe de votre côté?
Non, là, nous, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, tout à fait conscience qu'un mouvement comme ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Mais Alain Juppé voyait que ça continuait, et se demandait comment ça allait se terminer. Et il m'a téléphoné pour me parler de ça. Et je lui ai dit qu'il me semblait que le premier signal qu'il fallait qu'il donne, c'était de retirer son affaire sur les régimes spéciaux. Ce qu'il a fait, mais il était... À nouveau très étonné que du coup ça ne s'arrête pas le lendemain, parce que ça durait. Et là je lui ai dit qu'il fallait juste un peu de patience, parce que un mouvement de cette nature, ça monte vite, mais ça peut durer et ça redescend finalement doucement.
Et est-ce qu'il avait, selon vous, au téléphone, les autres représentants des autres organisations ?
Je ne sais pas, mais les autres organisations, elles étaient dans le lancement du mouvement, et etc. Donc je ne sais pas, peut-être, ou en tout cas son conseiller social a dû avoir aussi les autres organisations.
La journée du 12 décembre constitue un tournant. C'est le jour où Pierre Bourdieu s'exprime devant les cheminots de la gare de Lyon. C'est également le jour du pic de la mobilisation, qui atteint 1 million de manifestants dans les rues selon le ministère de l'Intérieur, 2,2 millions selon les syndicats. À Rennes et Saint-Étienne, des retraités se joignent au mouvement. À Nantes, ce sont des agriculteurs qui distribuent du chocolat chaud. À l'Assemblée nationale, Alain Juppé annonce l'entrée en vigueur de la réforme de la sécurité sociale et tente de le présenter comme une victoire alors qu'il a cédé sur la plupart des points qui lui tenaient à cœur.
Et la sécu, aux travailleurs, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la sécu.
Les régimes spéciaux des cheminots et de la RATP demeurent, le plan de transformation de la SNCF est abandonné. Trois jours plus tard, il renoncera également à porter à 40 le nombre d'années de cotisation pour l'ensemble des Français.
Alain Juppé, à l'instant même, à l'Assemblée nationale, vient d'affirmer que sa réforme serait appliquée. Il appelle à la reprise du travail, tout ça lors du débat sur la deuxième motion de censure déposée par la gauche en 8 jours. Alain Juppé.
J'ai pris conscience, comme chacune et chacun d'entre vous, que tout le monde souffre de cette situation et que c'est donc tous ensemble qu'il faut chercher les moyens d'en sortir, car il faut en sortir. J'ai fait pour cela tous les efforts qui étaient nécessaires, les ouvertures et les clarifications que j'ai exposées tout à l'heure. En ce période d'année, il faut que chacun prenne conscience que nous devons recommencer à circuler et à travailler.
Ce même 12 décembre, au téléphone sonne sur Inter, le spécialiste des relations sociales Raymond Soubi analyse la situation. Pour lui, à présent que les cheminots ont obtenu gain de cause, la nature du mouvement a radicalement changé.
Il faut bien voir que dans la situation actuelle, il y a deux sujets. Il y a un premier sujet qui a dominé jusqu'à ces jours-ci, qui était un conflit social de type classique dans des entreprises publiques, SNCF et RATP. Et ce qui paralyse la circulation dans Paris et dans un certain nombre de grandes villes. Ce sujet-là, il est en train, je ne dirais pas de s'arrêter, mais en tout cas le sujet, lui, disparaît. Car comme le Premier ministre a retiré les projets de réforme sur les régimes spéciaux de retraite et le contrat de plan, il n'existe plus, je crois objectivement. En revanche, il y a un second phénomène qui est en train de monter en puissance et que l'on voit à travers l'importance des manifestations, qui est une sorte de protestation. D'abord du secteur public, parce qu'il y a beaucoup de gens du secteur public dans ces manifestations, mais pas seulement du secteur public. Alors, la signification de tout ça. Moi, j'ai une vue qui n'est pas réellement optimiste. Je veux dire par là que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de crispation de la société française qui se rebiffe devant des choses inéluctables qui sont liées à l'ouverture des frontières, à l'acceptation des critères de Maastricht, à un certain nombre de contraintes internationales dans lesquelles elle a été engagée et dont, provisoirement, elle ne veut plus. C'est donc ce que j'appellerais une phase de régression.
Nicole Notat, votre regard sur ces archives, et en particulier la dernière, celle de Raymond Soubi.
Non, celle de Raymond Soubi est importante. Je crois qu'il a raison de dire qu'il y a deux éléments. Enfin, il y a le vrai sujet sur les régimes spéciaux, et puis comme ça dure et que ça monte encore, ça veut dire qu'effectivement, on s'est interrogé de la même façon, nous, là-dessus, en disant, mais finalement, il y a des choses qui s'expriment à travers ce mouvement-là, qui vont au-delà du sujet qui est sur la table.
Que vous n'aviez pas vu, a priori ?
Non, mais... Enfin, je pense, vous savez, ce genre de choses, quand ça naît, c'est rare, ceux qui l'ont véritablement vu.
Il n'y a pas des choses qui remontaient depuis les militants de la CFDT.
Non, il n'y avait pas de militants, beaucoup de militants de CFDT dans les rues à ce moment-là.
Mais vous-même, donc vous êtes syndicaliste, on a dit que vous souteniez une partie du plan Juppé. Est-ce que vous vous sentez en empathie avec les gens qui défilent ? Est-ce que vous êtes un peu clivé ? Parce qu'a priori, vous êtes plutôt encline à être supporter des personnes qui réclament davantage de droits sociaux, et en même temps vous êtes aussi une des personnes qui soutient la réforme. Est-ce que vous êtes un petit peu dans cette difficulté, dans ce schisme ?
Non, parce que on ne s'est jamais exprimé pour dénoncer, pour critiquer le mouvement en question, même si on n'y appelait pas. Enfin, il faut le comprendre parce que c'était un besoin et ça s'est fait, mais ça restait un mouvement de protestation. Il n'y avait pas de demande, il n'y avait pas de revendication, il n'y avait pas « nous voudrions ceci ou cela », c'est « nous ne voulons plus ceci, 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 cela ». Ce qui veut dire quelque chose, il faut donc écouter. Mais c'est un mouvement qui avait peu de chances de déboucher sur quelque chose de concret pour ceux qui manifestaient.
Mais cette réponse ne satisfait pas et toujours pas d'ailleurs les personnes qui sont voilà qui sentent qui ont le sentiment que leurs droits sociaux n'ont pas augmenté depuis lors ou peut-être ont même diminué.
C'est excessif ça. Je sais que j'entends beaucoup en ce moment que tout va mal, que tout se restreint, mais enfin il faut regarder les choses d'un peu plus près. Il y a quand même des accords d'entreprise qui existent depuis très longtemps dans ce pays, tous les ans sur les salaires, tous les ans. Alors, on n'a pas à chaque fois la satisfaction des revendications salariales qu'on a. Mais je crois que je n'ai pas envie pour ma part de faire valoir une idée noire des réalités de travail et des réalités de la négociation d'entreprise.
Le 15 décembre, Alain Juppé retire donc cette fois l'ensemble de son plan sur les retraites. Le mouvement décline, la sortie de crise est en vue. Le 18 décembre, des reporters de l'émission « Là-bas si j'y suis » enregistrent encore des échos des manifestations qui subsistent, comme si les manifestants ne voulaient pas rentrer chez eux, comme s'ils voulaient poursuivre ce moment de vie suspendu.
Libéralisme économique tel qu'il se présente actuellement. Ça mène automatiquement au chômage et à l'exclusion.
Donc votre petite pancarte, c'est écrit « Nous refusons la société des marchés libres. Nous voulons une société pour les hommes. »
Pendant cette grève, j'ai appris une chose, c'est que cette idée dont je viens de parler est présente un petit peu dans tous les esprits. Ça me donne confiance dans une issue possible.
Laquelle ?
Une issue où l'homme se prend en charge et va combattre tout ce qui est nuisible à l'humanité.
Non, mais c'est très, très en lien avec ce dont on parlait avant, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à travers ce qu'on entend là, ça n'a plus rien à voir avec l'assurance maladie. Ça n'a plus rien à voir avec le plan Juppé. Donc c'est vrai qu'il y avait un besoin d'expression ou de critique ou de beaucoup plus large sur les marchés, sur le libéralisme, qu'on peut tout à fait entendre, mais sur lesquels je pense que les manifestants étaient contents de pouvoir exprimer ça et partager entre eux ces dialogues.
Est-ce que 1995 a été un tournant pour le syndicalisme en France ?
Un tournant, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que, en tout cas pour nous, tel qu'on l'a vécu, parce que la CFDT, depuis plusieurs années avant ça, avait voulu très précisément mettre en avant la doctrine qui était la sienne sur le type de syndicalisme qu'elle voulait conduire. Et en disant, c'est un type de syndicalisme qui, bien sûr, a recours à la critique, c'est bien sûr un recours à la manifestation, à la grève quand il faut, mais ça ne suffit pas à faire un rapport de force. Il faut, en même temps, pouvoir obtenir, être force de proposition, obtenir quelque chose pour les salariés qu'on représente, sinon on n'intéresse plus personne. Et donc on s'est vraiment constitué pour réaliser cette vision, ce type de syndicalisme qu'on voulait. Et là, la réforme Juppé nous a donné l'occasion de mettre vraiment en visibilité ce que nous souhaitions comme type de syndicalisme. On ne dit pas non tout le temps. On dit oui quand nos revendications se trouvent satisfaites.
Donc, ça crée une clarification. Au sein même du syndicat, il y a un certain nombre de personnes qui quittent la CFDT, qui vont créer Sud et Solidaire.
C'est
une clarification. Et puis, la CFDT va être, d'une certaine manière, par les autres syndicats, mis un petit peu au banc et considéré comme étant plus proche qu'il ne faudrait du pouvoir. Est-ce que c'est pas ça quand même le tournant de 95 pour la CFDT ?
Oui, mais ça aussi on l'expliquait. On expliquait en 86, on a fait une déclaration disant que après avoir voté et appelé à voter pour la gauche pendant des années, nous avons dit nous sommes ni neutres, ni partisans. n'appelons pas à voter pour les élections présidentielles. Parce qu'on a des adhérents, parce qu'on a des salariés qui sont qui votent souvent pour nous, et ces gens-là, ils sont pas tous de gauche. Donc si nous voulions devenir un syndicalisme qui se développe, un syndicalisme qui a de plus en plus d'adhérents, parce que c'est aussi ça notre force, il fallait qu'on arrête de présenter un syndicat qui était trop politisé. D'ailleurs, la CGT a arrêté d'être la courroie de transmission du PC à un moment. Elle a été très, très, très longtemps, mais elle a arrêté. Ce qui veut bien dire qu'on n'y gagne pas.
Même si aujourd'hui, la CFDT est quand même considérée comme étant au centre-gauche. On ne peut pas dire que ce soit
totalement... C'est un avis de l'extérieur, mais la CFDT aujourd'hui n'a pas de manifestation particulière qui marque un lien objectif, un lien réel avec un parti politique. Alors bien sûr que ça discute, bien sûr que ça parle, et ils sont au gouvernement ou bien au Parlement, et donc il y a besoin de leur faire connaître les positions, mais je crois qu'aujourd'hui on ne peut effectivement pas dire ça.
Le 21 décembre, à l'initiative du gouvernement, un sommet social se tient à Matignon. Les discussions durent 10 heures. Mais il s'agit davantage d'un baroud d'honneur, un moment symbolique qui acte la fin de la crise et dont rien de concret ne sort réellement.
Ah non, c'est pas la dernière. Je pense pas que ce soit la dernière. Même si on est obligé d'arrêter parce que les cheminots ont beau être la locomotive du mouvement social, quand il n'y a plus de wagons, faut savoir arrêter le voyage. Mais bon, je pense que c'est pour mieux rebondir. Je pense que l'année 96 en verra d'autres.
Nicole Nota, quel souvenir de ce sommet du 21 décembre ?
Oui, enfin, je ne partage pas tout à fait, mais ça ne vous étonnera pas le fait qu'il n'y ait rien de sorti de ce moment-là, puisqu'on était effectivement en réunion en présence du Premier ministre, où le but était de dire, bon, dont acte, ce mouvement a eu lieu, la réforme des retraites n'a pas été retirée, et donc pensons à ce qui pourrait être utile pour l'avenir. Et donc on est sorti avec une déclaration finale, si vous voulez, qui posait les bases de ce que pourrait être la philosophie du gouvernement sur le dialogue, sur des sujets qui méritaient d'être traités et qui occuperaient pendant l'année 96. Donc c'était, je dirais, un moment de passage entre ce qu'on venait de vivre et le fait qu'on voulait retrouver pour l'année 96 des modalités de discussion.
Donc recréer du lien, en fait, plus ou moins.
Oui, mais enfin du lien avec du contenu. C'était pas pour le plaisir d'avoir du lien, c'était aussi parce qu'on voulait, sur les sujets qui étaient identifiés, pouvoir avancer, pouvoir retrouver les bases, d'obtenir des choses concrètes.
Aujourd'hui, pensez-vous que la réforme de la sécurité sociale, que donc vous souteniez, hein, pas la réforme des retraites, qui a été mise en œuvre, a été une bonne réforme ?
Elle a été une réforme nécessaire au moment où elle l'a été, mais la réalité d'aujourd'hui montre qu'elle n'a pas suffi à assurer complètement l'équilibre du régime et régler tous les problèmes qui étaient là.
Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez exactement la même chose, Nicole Nota ?
Oui, sans hésitation.
30 ans après 95, la France est de nouveau prise dans les turbulences sociales et politiques.
J'appelle aujourd'hui les salariés, les retraités, à se mobiliser très massivement par la grève et par la manifestation.
La question des retraites continue de diviser le pays, dans des termes qui ressemblent beaucoup à ceux qui étaient débattus en 1995. Que s'est-il donc passé en 30 ans ? Quelles leçons ont été tirées de la mobilisation dans les semaines qui ont suivi les événements ? Au fond, que peut nous apprendre 95 dans le moment que nous vivons ?
Dans les ans de mouvements sociaux, aucun train ne circulera sur les lignes de la banlieue Paris-Saint-Lazare.
Voilà les questions que nous allons nous poser dans l'épisode qui vient.